Laissez-vous tenter dans RTL Matin
avec Vincent Parisot. Bon.
Voilà, eh bien, on a pris l'antenne presque par surprise.
C'est dans Laissez-vous
tenter. Et dans Laissez-vous tenter ce matin, il y aura Stéphane de Pasquale. Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent, vous savez que dès que Noël s'approche, il faut m'appeler
Tonton.
Tonton. Bah, oui. Donc Tonton va vous offrir ce matin la trilogie Strom. Alors mes enfants, Strom, S-T-R-O-M.
À vos souhaits.
C'est l'histoire des jumeaux Raphaël dotés de pouvoirs paranormaux. En fait, les ados vont adorer ces Jedi, en référence à George Lucas de l'Insolite. Ouais. Et en plus, la trilogie, je vais vous offrir 10 trilogies, et les auteurs sont là pour vous dédicacer.
Ah ben ça, c'est sympa.
Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas.
Donc les auditeurs d'RTL vont jouer, gagner si possible ces 3 livres, et ils seront dédicacés.
Tous.
Sympa.
Alors.
Au programme également, Isabelle Carré, et ça c'est grâce à vous, Michel Consolal.
Merci Vincent, bonjour, bonjour à tous. Je sais que son petit air d'institutrice souriante et non moins talentueuse vous fait craquer. Vincent, eh bien je vous l'ai amené.
Mais comment vous savez ça?
Eh bien je le sais, ça se lit dans vos yeux. Confidence avec Isabelle Carré, demain au cinéma.
Il est une superstar planétaire.
Eh oui.
Et tout le monde en parle, en tout cas dans le milieu de la danse. Benjamin Millepied, vous l'avez rencontré, Sylvain Bellery?
Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Le film Black Swan a changé sa vie professionnellement, puisqu'il a chorégraphié le film et que sa carrière a explosé depuis. Et puis du côté perso, puisqu'il a rencontré sa compagne sur le tournage, Nathalie Portman. Portrait à suivre.
Et puis Isabelle Morini-Bosque va nous parler télé, forcément.
Isabelle pense depuis tout à l'heure par rapport à un mille-pieds.
Ah oui,
alors maintenant, il faut le faire.
Ah non, mais danser et s'appeler mille-pieds, moi ça m'éclate.
Ouais, ouais. Ça c'est fait.
Bon, mais moi je vais meubler. Je vais meubler en parlant justement d'IKEA, en parlant des cuisines, et notamment des cauchemars en cuisine. Et puis c'est aussi la première rétrospective de l'année. Bah oui, c'est comme les papillotes
déjà.
Avant Halloween,
ça
on n'a pas encore fêté Noël.
Donc après, on va en prendre pendant 3 semaines, quoi.
Et ben voilà, d'où l'intérêt de commencer ce soir.
Voilà, vaut mieux commencer tôt à la limite. Stéphane de Pasquale. Donc, vous nous offrez en cadeau de Noël ce matin, alors pour les ados.
À partir de 12 ans.
La trilogie Strom. C'est une saga qui va les emballer.
Voilà, nos deux héros se prénomment Raphaël, un même prénom pour des jumeaux, une sœur et un frère qui vont joyeusement vers leurs 12 ans. Deux ados orphelins, leurs parents ont disparu il y a 10 ans, depuis ils sont élevés par Tristan. Leurs parents, membres d'une société ultra secrète très ancienne, la confrérie de Saint-Georges, l'homme qui a terrassé le dragon. Tristan est chevalier de l'insolite, l'ordre le plus élevé, sa mission se rendre partout dans le monde où quelque chose d'étrange, d'inexpliqué est intervenu.
Oui, et là j'imagine qu'il va y aller avec dans ses bagages ses deux filleuls.
Bien vu, nos deux Raphaël ont des atouts majeurs, ce sont deux ados brillants, le garçon est intouchable côté chiffres et raisonnement, la fille, elle, a la capacité naturelle de lire dans l'esprit de son frère, les bases sont prometteuses, ils vont être initiés et formés dans une aile très secrète du Louvre, reconvertie en bibliothèque. Salle de cours et bunker technologique.
D'accord, mais on leur apprend quoi au Louvre?
Ah, des cours que j'aurais aimé avoir. Les cours portent ici sur l'invisible, la télépathie, l'hypnose. Les apprentis possèdent des scrutateurs, des lunettes qui permettent de voir des choses indécelables à l'œil nu. Chaque novice a en permanence avec lui un komolk.
Ah bah oui, un komolk.
Une petite bête poilue.
Comment sorte va de... votre komolk?
Ben, le mien était un petit peu mou ce matin. Et ce gremlin prend la forme désirée de son maître. Oui, absolument. Une échelle, une clé, une épée. Et ces drôles de bestioles poilues se goinfrent de fermeture éclair, les sœurs de pleine lune. Et ils sont liés à la vie, à la mort, à leur très jeune Jedi.
Très bien, ça m'a l'air truffé d'invention cette histoire.
C'est truffé et je ne vous ai pas encore parlé du Strom, le titre. C'est en fait ce fameux sixième sens que vous avez, mon cher Vincent, enfoui en vous, mais vous ne le savez pas encore, c'est ce que me disait votre femme. Ce sens qui, s'il est cultivé, peut déclencher des pouvoirs étonnants. Les chevaliers ont tout fait fructifier, notamment ses talents cachés, et les jumeaux ont un potentiel énorme.
Et ce potentiel énorme, comme vous dites, va les aider à résoudre des enquêtes.
De plus en plus difficile, la première est égyptienne, le parrain et les jumeaux vont devoir comprendre comment, dans la vallée des rois, un ordinateur portable se retrouve dans le sarcophage d'un pharaon, emmuré depuis 4000 ans. Dans le tome 2, les jumeaux vont être séparés, la fille va passer les portails d'outre-temps et se retrouve téléportée en Égypte, aux côtés du fils d'Horus, une vermine, cherchant à devenir pharaon. Les Raphaël ont encore progressé, ils passent l'épreuve redoutée de la ligne rouge, dans laquelle un redoutable clone de Bruce Lee leur apprend à domestiquer leurs peurs les plus enfouies. À la fin du 2, les jumeaux finissent élevés au grade de Stromillon.
Ben voilà, vous avez fait les deux premiers. Il y en a trois. Donc, la 37e prophétie.
C'est le titre du troisième.
Ils font quoi ?
Ils sauvent le monde, simplement. Simple. La prophétie en question est celle de Nostradamus annonçant l'apocalypse, la fin du monde. Les jumeaux vont se servir des portails d'outre-temps qu'ils ont su apprivoiser pour se rendre en l'an 301 pour s'emparer d'Ascalon.
Qui ça ?
Ascalon.
C'est une fille ?
Non, c'est l'épée de légende de Saint-Georges.
Ah oui,
Ascalon qui a terrassé le dragon. Seule cette épée magique peut tuer le Margilin, l'homme aux mille visages, le prince noir, l'incarnation vivante du malin sur Terre. Cet ultime volet est emballant. Il va mettre en péril la vie des jumeaux qui vont accéder enfin au titre très envié de Séid. C'est le niveau ultime des chevaliers de l'insolite.
Bon, ça voilà va plaire aux ados, ça. Hein,
ah bah paranormal, formation, pouvoir, si ça plaît pas... Je me poignarde avec une saucisse.
Non, mais attendez un peu.
Avec une saucisse, ça ne fait pas mal. Il y a tout ce qu'ils aiment, les ados. Et en référence au Jedi de George Lucas, la devise des jumeaux pourrait être « Que le Strom soit avec vous ». Les auteurs Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas, Marie et Femme, ont réussi une trilogie passionnante qui, au fil des volets, monte en puissance. Ils vont vous dédicacer, nous l'avons dit, les trois. Trois, sinon rien. Bah mais il faut gagner.
Bah évidemment, il faut gagner. Il faut répondre à une question. Alors là, toute simple, hein, si vous nous avez bien écouté. Quelle est la question ?
Quel est le nom de l'épée de Saint-Georges, le chevalier qui terrasse le dragon ?
On l'a dit, on a même sérieusement insisté.
Vous avez même rebondi.
Oui, on a été un peu assistant sur le coup. Dépêchez-vous, quel est le nom de l'épée de Saint-Georges, ce chevalier tueur de dragon ? N'hésitez pas, 3210, 3210, c'est trois beaux bouquins qui vont plaire vraiment à vos ados. Et pour Noël, c'est quand même une bonne idée, 3210, 3210. En plus, ils seront dédicacés. Alors comme ça, Michel Cohen-Solal, vous avez rencontré une comédienne qui est toujours là, là où on ne l'attend pas.
C'est vrai.
Mais là, vous aviez rendez-vous et finalement, elle était là.
Ah bah oui, elle était là, heureusement.
Et en tout cas, elle surprend régulièrement son monde. Et là, encore une fois, avec ce rôle de flic qu'elle interprète dans Des vents contraires, il s'agit d'Isabelle Carré.
Film adapté du roman d'Olivier Adam et mis en scène par Jalil Lesper, un réalisateur impressionné par cette comédienne, j'allais dire un petit peu caméléon. Là où elle se pose, elle s'imprègne tellement de son personnage qu'elle en devient surprenante. Cela dit, c'est surtout parce que l'histoire du film tourne autour de deux enfants qu'Isabelle a accepté ce rôle. Il faut dire qu'en moins de 5 ans, elle est devenue deux fois maman.
Bingo. Exactement. J'ai toujours été touchée par les histoires avec des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et par l'état de l'enfance en général. Dès que je voyais des reportages à la télé, déjà adolescente, quoi, avec des enfants en difficulté ou au contraire, des enfants heureux. C'est toujours une fibre, quelque chose qui m'a toujours touchée. D'ailleurs, je m'occupe d'associations de parrainage d'enfants dans le monde. La mucoviscidose aussi qui touche en priorité les enfants. Donc je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, d'être maman, ça n'a fait qu'accentuer ce trait de mon caractère. Et ce scénario m'a plu en grande partie à cause de ça, oui.
Alors, disons-le en quelques mots, le scénario, justement, il évoque la vie d'un homme qui bascule du jour au lendemain, jour où sa femme disparaît subitement. Alors l'homme, c'est Benoît Magimel, sa femme, c'est Audrey Tautou.
Et Isabelle Carré apparaît au moment où Magimel, justement, déménage avec ses deux enfants à Saint-Malo. Isabelle, dans le rôle d'un flic au physique fragile et délicat, qui ne l'empêche pas d'incarner avec force et détermination un capitaine de police.
Oh, j'en ai derrière la pédale, hein. J'ai beaucoup d'énergie et puis encore une fois, la réalité est beaucoup plus proche de ce qui est décrit dans ce film que des muscles et des flingues tirés toutes les minutes, quoi. Ce sont vraiment des gens comme vous et moi qui ont ce regard sur les autres qui est vraiment très proche de ce que raconte le film. Et moi, non, j'étais ravie parce que j'avais jamais joué de flic, comme vous le dites si bien, parce que ça me permettait d'essayer autre chose, de proposer une autre couleur. Et j'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour les metteurs en scène qui prennent ce risque-là, parce que c'est facile de dire « Ah bah oui, ça, on l'a vu là-dedans, donc ça va, on sait que c'est à peu près le faire, et de prendre le risque de proposer autre chose à un comédien, voilà, on prend ce risque-là ensemble, et c'était un bonheur ce tournage. »
Et depuis quelque temps, déjà, elle réussit petit à petit à pénétrer dans le monde de la comédie, qui pendant longtemps l'avait un petit peu boudée.
Là, je suis très heureuse parce que ça vient. J'ai plein de projets de comédie, dont une avec Thomas Vincent, qui est vraiment magnifiquement écrite. Là, c'est vraiment les comédies comme je les aime, donc j'ai très hâte d'être sur ce tournage. Mais c'est vrai que sinon, j'ai plus fait des drames, et parfois même, j'ai envie de dire, des gros, gros drames, que des choses plus légères. Et c'est Zabou Breitman qui m'a donné confiance, j'ai envie de dire une fois de plus, parce qu'elle m'avait déjà donné confiance et fait confiance d'une façon extraordinaire pour se souvenir des belles choses. C'était pas simple, hein, jouer Alzheimer, j'avais même pas 30 ans, et bon, il fallait rendre ça crédible. Et c'est elle qui m'a proposé, avec une pièce de théâtre qui s'appelait L'hiver sous la table de Roland Topor, de passer vraiment dans un autre registre. J'avais déjà joué des seconds rôles dans des comédies, mais j'avais toujours le côté dramatique de la comédie. Dans Mercredi ou la folle journée, ou dans La bûche, je pétais un câble sur l'autoroute. Oui, il fallait le faire avec rythme, hein, certes, mais enfin, c'était pas un rôle très joyeux quand même. Et avec cette pièce, Zabou m'a montré que c'était possible. Et puis après, j'ai pu jouer dans 4 étoiles de Christian Vincent avec un petit peu plus de confiance.
Bon, Isabelle Carré, qui n'est pas la sœur de Maria. Hein.
Non,
parce que j'entendais.
Ah, c'est bon, Vincent.
Ça, c'est pas bien de mentir.
Isabelle Carré, donc dès demain, dans Des vents contraires, film de Jalil Lespère, avec Benoît Magimel, Audrey Toutou. Très beau film, paraît-il.
Très beau film, et Stéphane Boutsock vous en dira beaucoup de bien, je pense, demain.
Voilà, et évidemment, c'est tiré du livre, hein, du roman d'Olivier Adam, Des vents contraires, qui avait été Grand Prix RTL Lire en 2009. Hein, comme
exactement.
Quoi, on a aussi du nez, et les auditeurs d'RTL en ont. Merci beaucoup. Et dans un instant, après la valse à mille temps, la danse de mille pieds.
Vincent Parisot, laissez-vous tenter dans RTL Matin.
Alors comme ça, Steven Bellery, vous êtes allé rencontrer un danseur chorégraphe connu dans le monde entier. C'est Benjamin Millepied, vous l'avez rencontré à l'Opéra de Lyon. Il va présenter deux de ses créations à partir de samedi. Ça va durer une semaine, hein, jusqu'au 23 décembre. Alors, c'est vrai, je disais star international. Peut-être que pour certains, Benjamin Millepied, ça ne signifie pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il est connu un peu partout.
Oui, Benjamin Millepied, 34 ans, danseur principal du New York City Ballet, était déjà connu des amateurs. Mais c'est véritablement cette année qu'il s'est fait connaître du grand public. C'est lui qui danse dans le désert, dans la nouvelle pub d'Air France.
Ah oui.
Lui encore qui prête son image à un parfum d'Yves Saint-Laurent.
Ah oui,
et si l'on...
Ah oui,
pas mal. Bon. Et si l'on voit sa belle gueule, son regard bleu limpide et sa barbe de 3 jours un peu partout, c'est parce qu'il est surtout le chorégraphe et l'un des acteurs du film Black Swan de Darren Aronofsky.
Darren Aronofsky, il avait vraiment besoin de quelque chose d'assez précis, ce qu'il a amené à moi. Il avait besoin de présenter dans ce film un lac des cygnes, mais il fallait qu'il y ait quand même tous les gestes de signature. On était vraiment dans la danse classique, mais il fallait quand même la moderniser un petit peu. C'était passionnant. Je voyais ce matin, enfin je passais devant l'affiche de Lyon, et c'était la même chose à Genève, où et maintenant il est marqué sur toutes les affiches, c'est Benjamin Millepied, et voilà, chorégraphe de Black Swan. C'est vraiment un voyage assez époustouflant, je pense, le film. On n'en sort pas indemne, en tout cas.
Non, c'est vrai que c'était un film, comment dire, dérangeant un peu
dérangeant.
Quand même. Black Swan, on peut dire que ça a changé sa vie à tous les niveaux.
Oui, sa carrière a décollé depuis et sur le tournage de Black Swan, Benjamin Millepied est tombé amoureux de Nathalie Portman, celle qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de danseuse, partage sa vie depuis. Ils ont eu un fils né au mois de juin dernier. Pour autant, il ne veut pas devenir un people.
Oui, enfin, ça m'a demandé une période d'adaptation, savoir comment gérer. La vie privée, quelque chose on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est une chance d'avoir sa vie vraiment privée. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, oui. Absolument. Et de se protéger, c'est extrêmement important.
En tout cas, cette passion de la danse, il l'a connue tout jeune, enfant.
Oui. Eh oui, ça l'habite depuis qu'il est gosse. Hein. Il a un père musicien, une mère prof de danse contemporaine. Ses premières années, il les passe entre le Sénégal et Bordeaux, où il est né. Même s'il le jure, personne ne l'a forcé à danser. Eh bien, Benjamin Millepied confesse qu'avoir un studio de danse à domicile et entendre en permanence de la musique l'a sûrement influencé. D'ailleurs, il dit souvent qu'il danse parce qu'il aime la musique.
Et je pense que c'est d'abord la musique en fait. Mes frères sont musiciens et j'étais un enfant très actif, très à l'aise avec son corps. Et la musique en fait est quelque chose que j'aime depuis tout petit. Au début la danse c'est un désir créatif par rapport à la musique. Donc ce désir de chorégraphier, de créer, ça a toujours été en moi en fait. Et la danse bien sûr c'est venu donc de ça. De l'envie de faire comme un petit garçon, envie de faire des dessins, de faire de la peinture. Moi j'aimais bien faire des danses.
Ouais, en tout cas le talent de Benjamin Millepied a été très vite repéré, Steven.
Oui, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Lyon à 13 ans, d'abord en contemporain, puis il se redirige vers le classique. Ce fan de Bach et Stravinsky ne va pas y rester très longtemps. 4 ans plus tard, il entre à l'école du New York City Ballet, puis il y est engagé, il devient principal, c'est l'équivalent de danseur étoile à l'Opéra de Paris en 2002. 3 ans plus tard, il chorégraphie Casse-Noisette pour l'Opéra de Genève. Il a tout juste 28 ans. Le chorégraphe a alors rattrapé le danseur.
On est obligé de passer par le stade de danseur. Après, le stade de chorégraphe, c'est un autre métier. C'est un métier à part entière. C'est un métier où il n'y a pas vraiment d'école pour devenir chorégraphe, ce qui est assez curieux parce que c'est un savoir-faire de composition, d'analyse, connaissance de la musique, une connaissance des sujets, savoir raconter une histoire ou pas. Ou bien sûr, on a les pieds dedans quand on est danseur. C'est un chemin qui est à part entière. En fait, on apprend à devenir chorégraphe en étant chorégraphe.
Et Benjamin Millepied veut désormais s'y consacrer. Hein. La danse, j'ai vraiment donné, dit-il. À Lyon, il va présenter 3 pièces de ballet, une de Georges Balanchine et 2 de ses créations, notamment sur la musique de Bach que l'on entend. Pressé, hyperactif, même il se défend en expliquant qu'il ne fait que suivre sa passion. Millepied fera d'ailleurs un pas de côté supplémentaire l'an prochain. Il va avoir sa propre compagnie à Los Angeles. Une compagnie qui aura pour seconde salle le Théâtre du Châtelet à Paris.
Donc voilà, on verra ce moment. Benjamin Millepied qui, en attendant, sera donc à l'Opéra de Lyon du 17 au 23 décembre. Pour 3 pièces, c'est cela?
Oui, une de Georges Balanchine, hein, c'est lui qui avait créé le New York City Ballet de Balanchine, et puis 2 de ses créations sur une musique de Bach notamment.
Merci beaucoup, Steven Bellery.
Peut-être faire 1000 bornes.
À mon avis, elle l'a potassée, celle-là.
Ça fait 18 minutes que ça nourrit.
Plus sérieusement, si je puis dire, Isabelle Morini-Bosse, quelques petites audiences pour se mettre en train.
Oui, vous voulez savoir qui a fait un faux pas?
Oui.
C'est peut-être L'Amour en jeu sur TF1. 6 600 000 pour Castle, donc qui est en tête avec 23% des téléspectateurs. Et nettement derrière tout de même, L'Amour en jeu de TF1 sur le football, à 5 300 000. Et un tout petit peu moins de 20% des téléspectateurs. Et en troisième position, Coup de foudre à Notting Hill sur M6. A signaler tout de même, 1 050 000 personnes ont vu Les Mots passants sur la 5. C'est la plus forte audience de la 5. Quand je pense que France 2 en a arrêté la production en disant que ça ne marchait pas assez. Voilà ce que j'en dis.
Alors, pour ce soir, tiens, vous voulez d'abord nous signaler une petite curiosité sur Arte.
Oui, quel est l'idéal commun aux jeunes Russes, aux jeunes Israéliens et aux jeunes Chinois, pour ne citer que ceux-là? Eh bien, c'est Ikea. Quel que soit leur projet de vie, restaurant à Moscou, kibbutz, nouveau genre à Haïfa ou HLM pour jeunes couples pékinois, eh bien, ils se finissent tous chez Ikea. Ils en sont très contents. Pour comprendre ce que ça représente dans ces pays-là, écoutons les jeunes Russes.
C'était en 1989 ou 1990. Il y avait des files d'attente de 3 heures. La police était là pour assurer l'ordre.
Je me souviens, moi aussi, de l'ouverture du premier Ikea. Tout le monde à Saint-Pétersbourg attendait cet événement. C'était en 2004.
En tout cas, pour un soviétique, le rêve, c'était ça.
Ouais, voilà. C'est incroyable.
En Israël, pareil. En Chine, pareil. Voilà, ouais. C'est ce qu'on appelle un terrain meuble, on va dire.
Ah oui, oui. Mais à monter soi-même.
Oui, bah oui, ça, j'en sais quelque chose.
Oui,
c'est mon mari qui monte, si j'ose dire.
Oh, bah oui, bah vous osez. Vous osez, vous êtes très en forme ce matin. Et félicitations à votre mari. Ouais. Au passage.
Ouais, content, là.
Oui, bravo. Voilà.
Surtout qu'il monte de travers.
France 2 nous offre.
Pas de détails.
France 2, Isabelle, quand vous aurez fini de nous parler de votre vie privée, parlez-nous de la télé.
Difficile.
France 2 qui nous offre la première
rétrospective. Ça va être difficile.
La première rétrospective de l'année, donc.
Ne pense pas.
C'est Laurent Delahousse qui la présente, parle-lui de roman de l'année 2011 travers plusieurs temps forts, rendant surtout hommage à de nombreux inconnus, agriculteurs qui s'entraident, jeune femme japonaise cherchant son fils durant la catastrophe, Tunisien trouvant les ennuis et la liberté dans la lutte. Le but, regarder vers hier pour mieux aller vers demain avec Laurent Delahousse et ses invités. Laurent Delahousse, lui-même, l'un des hommes médiatiques de l'année 2011. Il est le chouchou de ces dames, il n'aime pas, il nous l'a dit à 6h20. Et de son patron, vu que son secteur marche bien, et on n'ose pas dire qu'en début de saison, l'information sur la 2 était la seule à bien marcher sur France Télévisions.
Ça n'appelle pas de commentaires. Non, moi, de ce que je vois, ce que je perçois, parfois il y a des belles fictions. Il y a eu très très belles performances, justement, en prime avec des documentaires. Passif et pas ça fonctionne pas mal non plus. Oui. C'est pas mon job, là. Je parle de choses qui me concernent pas, mais l'info marche bien, oui, parce qu'on était dans une dynamique de renouvellement et en même temps de sérieux, d'équilibre, de liberté, d'indépendance. Et tous ces éléments-là, dans des périodes compliquées, on va dire agitées sur le plan de l'information, de pression, forcément, puisqu'à partir d'un moment où on rentre dans une logique de crise internationale, de crise économique, on est forcément dans un contexte particulier. Donc, il faut raison garder, être réactif, et en même temps, toujours avoir cet œil et ce regard et cette distance qu'on a, je pense.
Voilà, dans l'émission, on se reçoit bien question de Tunisie. Il y a une très jolie séquence où il parle à son correspondant Alain Chalvon, justement pendant la catastrophe japonaise. Alain Chalvon, qui n'arrive plus à faire son travail de journaliste tellement il est suffoqué d'émotion. C'est une bonne émission, sauf que ça se termine à 1h20, que pour un téléspectateur fatigué, je trouve que c'est un peu long. Enfin, il y a peut-être un petit peu de temps avant, mais en tout cas, ça se termine tard.
Bon, alors, en face, sur M6, j'ai noté la reprise de Cauchemar en cuisine. Ça, je sais que vous aimez bien.
Oui, j'aime beaucoup. Philippe Etchebest, qui a 2 étoiles au Michelin et qui a son restaurant, hurle moins que son homologue anglais. On sent qu'il aime la cuisine, les gens, et c'est lui qui fait la voix off, ce qui fait beaucoup de la différence. Son but, aider des restaurateurs au bord de la faillite. Ils sont franchement pas dans leur assiette. Il les restaure à tous les sens du terme, ce qui est tout de même paradoxal. Ça devrait être l'inverse. Écoutez-le face à une cuisinière qui s'est intronisée chef, qui fume comme un pompier dans sa cuisine. Cuisine à la propreté douteuse.
Fumer dans la cuisine?
Ça m'arrive.
Pourquoi?
Pour me déstresser.
Vous êtes stressé?
Oui.
le monde.
Je fume quand il y a beaucoup de monde et je fume également quand il n'y a personne.
Ouais, donc vous fumez tout le temps?
Je fume tout le temps.
D'accord.
C'est vrai.
Et vous fumez en cuisine?
Je fume en cuisine.
Et l'hygiène, vous en faites quoi?
Bah, je fais attention quand même. Je sais que c'est interdit, mais je peux pas m'en empêcher.
Déjà, c'est pas bon pour vous?
Je suis assez têtu.
Ah oui, mais avec moi, il va pas falloir l'être. Hein. Parce que je peux être plus têtu que vous.
Oui, je l'aime beaucoup. Faut m'expliquer pourquoi.
La spécialité à la dame, c'est les pommes de terre dans la cendre. Hein.
Voilà. C'est un peu ça. Faut m'expliquer pourquoi on met de la musique derrière, en revanche.
Ah bah, Dieu toujours, sait que ça s'impose aujourd'hui, pas, c'est là. La mode. Hein.
Et en deuxième partie de soirée sur TF1, la reprise de V, le feuilleton, moi, j'aime beaucoup.
Oui.
Et sur la 2, la rediffusion des deux hommes qui ont inspiré le film Intouchable. Mireille Dumas avait raconté leur histoire sur la 3, ce qui avait donné l'idée au scénariste de faire le film.
Oui.
C'est ce document-là que programme ce soir la
D'accord.
2, parce que France 3 n'avait pas la place.
Très bien, merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On va vous donner la réponse. J'espère que vous allez gagner la trilogie de Strom chez Nathan, Nathan chez l'éditeur. Et puis ensuite, on laissera la place à Julien Courbet.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Vincent Parisot.
Et on vous offrait ce matin la trilogie, c'est-à-dire trois romans de Strom chez Nathan. Il fallait simplement nous donner le nom de l'épée de Saint-Georges, ce chevalier qui terrasse le dragon.
Ascalon.
Ascalon. Et si vous avez dit Ascalon au 32-10...
Et c'est pas une saucisse.
Vous gagnerez donc ces trois livres Strom qui sont amis donc avec le Jedi. C'est ça.
Voilà, ce sont les chevaliers de l'insolite. Ce sont des petits Jedi.
Ni le Mercredi, ni le Vendredi.
Non, uniquement et ni le Fragdai.
Uniquement le Jedi.
Ouais, voilà. Mais à lire le Sundai.
En tout cas, c'est super pour vos ados. Merci beaucoup. On est avec Julien Courbet.